CITV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de « Bonjour chez vous ». Aujourd'hui, notre thème du jour est « Quelle place a le royaume de Dieu dans tes finances ?» Bonne question, qu'en pensez-vous ?
Très bonne question.
C'est la question que nous posons et on attend des réponses.
On sent un petit peu de pression aujourd'hui.
Je dirais qu'il faut que ça prenne encore de plus en plus de place.
Bonne réponse. Mais on va élaborer tout à l'heure. Mais Anne, tu vas aussi nous faire une rubrique flashback. Alors hier, dans l'émission, je terminais en annonçant... Vous avez compris, je bug sur le « on-en ». En annonçant ta rubrique, Pierre Valdo, les Vaudois. Ouais. Qui est-ce ?
Eh bien, ce n'est pas des Suisses, mais c'est des
gens... C'est dommage
qui... c'est des gens qui ont fait un retour aux Écritures, des précurseurs de la Réforme. On a beaucoup parlé de Réforme, surtout à l'occasion des 500 ans de la Réforme de Luther. Ben là, on va voir ce qui s'est passé un petit peu avant Luther. Il y avait déjà des gens qui avaient pris conscience qu'il y avait des anomalies dans la façon de vivre leur foi.
Tu nous mets l'eau à la bouche. Et comme je le disais, on va parler finances. Aujourd'hui, on va surtout parler de gestion financière de nos propres finances. Et on commence avec la pensée du jour. Michael, le titre de ta pensée, es-tu propriétaire ou gestionnaire ?
Oui, c'est le titre. Es-tu propriétaire de ton argent et de tes biens ou en es-tu le gestionnaire ? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les hommes se prétendent être, pour la plupart, propriétaires de leurs biens, de leur argent, de tout ce qu'ils possèdent. Ils se croient être propriétaires. Mais dans la parole de Dieu, on voit clairement que Dieu va s'opposer... farouchement, avec détermination, avec vérité, avec force, en disant qu'il est finalement, c'est lui qui est le propriétaire de l'univers, propriétaire du ciel, propriétaire de la terre et propriétaire de tout ce qui est dans la terre. Et on va le lire ensemble, Agé, chapitre 2, verset 8, dit « c'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or ». Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Deutéronome 10, 14, « Voici à l'Éternel ton Dieu appartient les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. » Il n'y a pas d'équivoque, peu importe ce que l'homme peut penser, il est dans l'illusion parce que Dieu, le Créateur, Dieu, le Tout-Puissant, Dieu, l'autorité suprême, lui qui a créé tout ce qui est dans la terre et tout ce qu'on peut voir, toucher, sentir, etc., ça lui appartient, il en est le propriétaire. Et quand on rentre dans le royaume de Dieu, quand on rencontre Jésus-Christ, qui n'est autre que le Créateur de toutes choses, le Fils de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, on doit changer cette mentalité. Parce que cette mentalité que le monde nous a appris que tout nous appartient et c'est à nous, elle est fausse. Jésus se présente comme étant le véritable propriétaire et cette mentalité doit nous quitter. Vous savez, par la nouvelle naissance, nous n'entrons pas dans la démocratie de Dieu. Lorsqu'on est de nouveau, on n'entre pas dans un système de démocratie divin. La Bible dit que quand on est de nouveau, on entre dans le royaume de Dieu. Donc on quitte un système de pensée de démocratie dans lequel on vit et on rentre dans un nouveau système de pensée qui est le royaume de Dieu. Là où il y a un royaume, tout tourne autour de son roi. Le roi, c'est Jésus-Christ. Et quand on rentre dans le royaume de Dieu, on change de système de pensée. Maintenant, on ne s'appartient plus à nous-mêmes, on appartient à un roi. Tout véritable royaume, le roi est propriétaire des sujets. Il a le droit de vie et de mort sur les sujets du royaume. Il est propriétaire de leurs biens, de leurs terres et de tout ce qui leur appartient. C'est ça un royaume. Mais nous, nous avons un bon roi, un roi merveilleux qui nous aime. Mais c'est important de le comprendre. Et Paul le savait, il dit... En devenant chrétien, nous devenons les doulos. Le mot grec doulos signifie les esclaves. Paul a compris qu'en rentrant dans le royaume de Dieu, il devenait esclave du meilleur maître du monde, du meilleur roi du monde, Jésus-Christ. Et il dira dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, « Vous ne vous appartenez plus à vous-même. » Et il rajoutera dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 23, « Vous êtes à Christ et Christ est à Dieu le Père. » Donc ici, on comprend vraiment que maintenant, même nos vies ne nous appartiennent plus. On est devenu esclave de Jésus-Christ. Et on sait qu'il est un bon maître. Et ce que tu crois être ton argent, ce que tu crois être tes biens, en réalité, appartiennent à celui qui est devenu ton Seigneur, ton Roi et ton Dieu, Jésus-Christ. Et cette simple vérité, frères et sœurs, chers amis qui nous écoutez, cette simple vérité de savoir qu'on n'est pas propriétaire, mais qu'on est gestionnaire de ce que Dieu a mis entre nos mains, de ce que Jésus-Christ a accepté qu'on puisse avoir sur cette terre, ou a permis qu'on ait, cette simple vérité, cette simple compréhension fait qu'on va gérer notre argent différemment. On va investir notre argent pas que pour notre vente, pas que pour nous-mêmes, pas que pour nos plaisirs, pas que pour nos besoins personnels, mais on va tenir compte de mettre en priorité le royaume de Dieu, c'est-à-dire les intérêts du roi.
Amen, amen, cette notion de propriété, hein, qui est le propriétaire, qui est le gestionnaire, influencera beaucoup notre façon de dépenser notre argent, de gérer nos finances. On va regarder notre verset du jour qui est dans Matthieu 19, 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Est-ce que ça veut dire qu'on doit tous vendre tout ce qu'on possède pour pouvoir suivre Jésus ?
Oui.
Si oui.
En tout cas, tu dois être prêt à le faire, s'il te le demande. Ouais, c'est là la nuance.
C'est ça. Et
là, c'est vraiment un test de motivation, parce que quand Jésus a dit ça au jeune homme riche, c'était un gros test, parce que d'ailleurs, ça a marché entre guillemets son test, puisque le jeune homme riche a tourné les talons et
il est parti.
Donc, parce qu'il y a un problème qui avait été identifié, et puis que là, en fait, c'était il y a un problème, il faut régler ça, et après, tu peux me suivre. C'est pas une généralité,
mais c'est parce que ce garçon-là avait un problème avec l'argent.
C'est ça, parce que quand on regarde le modèle de l'Église primitive, on peut se dire, bon, ok, mais alors en fait, c'est comme ça qu'on devrait fonctionner, on devrait vendre tous nos biens et tout donner à Dieu dans ces cas-là, ou est-ce qu'il y a une compréhension différente à avoir ?
Je crois que c'est un état d'esprit, hein. L'apôtre Paul, il exprime très très bien quand il dit que ceux qui possèdent vivent comme s'ils ne possédaient rien. Et ceux qui ont des femmes, comme s'ils n'en avaient pas, bon, ça ferait plaisir à certaines personnes, pas à moi. Donc c'est vraiment un état d'esprit, une mentalité, une façon de penser, une compréhension, comme Michael le partageait. On doit adopter et comprendre et accepter et vivre après dans cette réalité du royaume qui fait qu'effectivement, on ne doit plus vivre comme des propriétaires, mais même si on possède des choses, parce qu'il ne dit pas qu'on ne doit pas en posséder, il dit même que les riches, ils ont été rendus riches pour leur plus grand plaisir et pour voilà, qu'ils soient un sujet de bénédiction pour faire des œuvres bonnes. Mais c'est vraiment une pensée, une mentalité qui doit... Et c'est vrai que dans les églises, on parle peu d'argent, d'une manière générale, assez peu, à part le temps d'offrande, donner au Seigneur votre dîme, etc. Et les offrandes, il y a un serviteur de Dieu qui passe. Mais si on n'a pas de compréhension, de méditation, si on ne médite pas sur ces choses, bah c'est vrai qu'on est dans le royaume de Dieu, mais on vit comme n'importe qui. Donc on veut s'acheter quelque chose, on le fait... On a un appel qui nous est fait dans une association, une église ou autre, bah, on réfléchit par nous-mêmes. En fait, on vit comme un propriétaire, alors que bah, ce n'est pas du tout ça qu'a l'air de nous expliquer ou de nous enseigner la parole de Dieu. Ou voilà, si je possède des choses, je dois vivre comme si je n'en étais pas le propriétaire, donc je dois être prêt, comme Michael a conclu, à tout donner ou à donner ce que le Seigneur met sur mon cœur pour l'Évangile.
Et dire, c'est beaucoup plus dur d'avoir des sous que de ne pas en avoir. Mm-hmm. Hein, je veux dire, dans le royaume de Dieu, c'est une très grande responsabilité que d'avoir entre ses mains d'immenses richesses.
Oui.
Il y en a, hein, des chrétiens qui sont immensément riches, ou tout simplement riches, mais la responsabilité qui va avec l'argent qui leur est, entre guillemets, prêté par Dieu, ben, elle est énorme. Parce qu'avec cet argent-là, ils vont pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu ou au contraire se tromper et investir dans des cul-de-sac, ou je ne sais pas comment dire, dans des choses sans avenir ou inutiles. Donc c'est pour ça que c'est important d'être d'excellents gestionnaires. Et puis, il n'est pas nécessaire d'être immensément riche pour être de bons gestionnaires, parce que nous-mêmes qui sommes des Occidentaux, on peut être considérés comme les riches de ce monde, de ce siècle, et on a la responsabilité d'être de bons gestionnaires de ce que Dieu nous confie.
Et tu posais la question par rapport à l'Église primitive. Il faut se mettre à leur place. Là, l'Église primitive, ils avaient cette mentalité justement du royaume où ils avaient réalisé que maintenant, ils avaient un roi. Et ce roi, c'est Jésus et tout lui appartient. Donc, quand le royaume de Dieu avait des besoins, des gens se convertissaient et des frères et sœurs de la maison de Dieu n'avaient même pas de quoi se nourrir ou de se loger. Donc, il y avait un vrai problème. Problème, problème. Les apôtres prient, le Saint-Esprit inspire une stratégie ou parle au cœur et Et là, il y a un élan de générosité parce que ces gens-là, justement, avaient cette mentalité de « c'est pas mon argent, c'est celui du Seigneur ». Et comme le royaume de Dieu en a besoin, il y a des nécessiteux. Ok, donc, vendons. Et ceux qui avaient les moyens vendaient et apportaient l'argent. Mais aujourd'hui, peut-être que le gouvernement répond beaucoup aux besoins des nécessiteux aujourd'hui, notamment en Occident, dans les pays développés. Mais le royaume de Dieu aujourd'hui a peut-être d'autres besoins prioritaires dans nos églises. C'est comme la mission, l'évangélisation. Et on doit toujours être armé de cette même pensée qu'ils avaient à l'époque. Non, mon argent n'est pas à moi. Et le Saint-Esprit a besoin de finances, le royaume de Dieu a besoin de finances, et c'est à nous, l'Église, d'être prêt à remettre entre les mains des structures, des organisations, les fonds nécessaires pour faire avancer le royaume de Dieu.
En fait, la clé, c'est la générosité. Et nous sommes appelés à avoir un cœur généreux. Et peut-être pour désamorcer certaines idées mal construites, il faudrait déjà se rappeler d'où vient la richesse. D'où vient votre richesse? Vous avez quelque chose dans la main, ça vient d'où? Ben, c'est Dieu qui vous l'a donné. Parce que si vous dites, non, j'ai travaillé fort, je le mérite. Déjà, ça, c'est un faux raisonnement. Parce que si vous dites, moi, je mérite, j'ai travaillé très fort, peut-être que vous avez travaillé 12 heures par jour et vous avez un bon salaire, mais il y a quelqu'un qui a peut-être travaillé 18 heures par jour, qui a travaillé plus fort que vous et il a moins. La richesse, c'est injuste. Et que quelque part, eh bien, vous puissiez être reconnaissant à Dieu pour tout ce que vous avez. Et c'est ça, quand on réalise que ce que l'on a, ce n'est pas à nous, mais c'est Dieu qui nous l'a confié. Ce n'est pas à nous, dans le sens, j'ai travaillé tellement fort, je le mérite. J'ai fait des études, j'ai fait de 12 ans d'études, c'est normal que j'ai un gros salaire. Ben, y en a qui ont fait 14 ans d'études et qui ont un plus petit salaire que celui qui en a fait 3 ans, selon les métiers.
C'est pas forcément juste, toi.
C'est ça. Donc, ce n'est pas « je le mérite ». On ne le mérite pas. Ce qu'on a, c'est une grâce, c'est une faveur, c'est Dieu qui nous le confie. Et c'est notre responsabilité maintenant de bien le gérer. Il y a ceux qui pensent être des propriétaires, je mets ça entre guillemets, parce qu'il y en a qui disent « non, moi, je ne suis pas locataire, je suis propriétaire ». En fait, c'est la banque qui est propriétaire.
Oui, ça, c'est vrai.
Parce que bien souvent, ça appartient à la banque, parce qu'ils ont fait un emprunt et ils sont propriétaires de rien. Il y a peut-être le nom sur un papier. Bon, s'il avait payé cash, bon, là, il pourrait peut-être être propriétaire. Et donc, la question, c'est les ressources que j'ai, comment est-ce que je les mets à profit? Et quelle place ça a dans le royaume? Est-ce que mon temps, mon argent, enfin tout, mes pensées, mon énergie, mes efforts, est-ce que j'investis ça? Est-ce que je sème? Est-ce que je donne au royaume de Dieu ou c'est pour moi? Et elle est là, la question.
Exactement.
Il y a le proverbe 23:4, je voulais vous le dire. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. On est pèlerin sur cette terre et la vie, ça passe vite, c'est un vrai clin d'œil. Et même des fois, il y a des gens qui ne sont pas rassasiés de longs jours. En plus, on n'en sait rien. Combien de temps notre vie et combien de temps de vie va nous être prêté. Et il faut toujours, si on a des richesses, appliquer notre intelligence à bien les gérer, mais pas en acquérir pour le simple fait d'en acquérir. Parce que ça, c'est clairement les œuvres de la chair. D'ailleurs, l'apôtre Paul, il en parle assez souvent de la cupidité dans les œuvres de la chair. Donc, il faut qu'on soit assez honnête devant Dieu pour dire, bon, est-ce que j'ai une bonne mentalité vis-à-vis de l'argent ou est-ce que c'est juste que j'aime l'argent parce que c'est ma chair qui réclame, parce que c'est flatteur d'avoir des sous, parce qu'il y a un appât du gain naturel chez l'homme pécheur. Donc, je crois que chacun, on est mieux placé que n'importe qui pour savoir où on en est à ce point de vue-là. Et puis, il ne faut pas appliquer notre intelligence à gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Dire, c'est quoi ton but? Pourquoi tu le fais? Est-ce que tu as un projet particulier que Dieu t'a mis à cœur? Est-ce que tu accumules juste pour le plaisir d'accumuler? Quoi ta motivation? C'est pas la quantité d'argent, c'est la motivation qu'il y a derrière qui est importante.
Et on a fait un sondage, on vous a posé la question sur notre chaîne YouTube. Pensez-vous qu'un chrétien peut faire ce qu'il veut de ses finances? Vous avez été 66% à répondre non, il doit avoir l'accord de Dieu avant chaque dépense. Bon, là, on comprend bien que ce n'était pas pour une baguette de pain. 21% non, il doit être prêt à tout donner pour l'œuvre de Dieu. 13% oui, il peut dépenser son argent comme il veut. Donc, en fait, on voit que cette mentalité de gestionnaire va nous influencer dans nos dépenses, bien entendu. Et Dieu regarde, en fait, notre façon de dépenser, notre façon de gérer les finances. Et ça démontre, en fait, clairement notre attachement au royaume de Dieu.
Oui, j'avais un point important à dire là-dessus. Je vais aller rapidement, mais c'est vrai que Dieu observe la manière dont on regarde nos finances. Et souvent, nos actes, ils sont en contradiction avec nos paroles. On dit que le royaume de Dieu est une priorité dans nos vies, mais on voit que la manière dont on gère nos finances et on gère notre temps prouve qu'en réalité, le royaume de Dieu n'est pas une priorité dans notre vie. Et Dieu voit ça, en fait. Et je lisais dans Agé, il y a 25 siècles, le temple de Dieu de Jérusalem a été détruit par les Babyloniens. Et en fait, pour Dieu, c'était vraiment important de reconstruire le temple. Ça représente les besoins du royaume de Dieu. Et on voit que là, le peuple, en fait, au lieu d'investir leur temps et leur argent dans la reconstruction du temple de Dieu, ils investissaient tout leur temps et leur argent dans leur propre maison. Et juste lire ce que Dieu dit, c'est tellement révélateur, en fait. Agé 1, 2, 4. « Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel n'est pas venu. » Dieu dit, verset 4, « Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand ce temple est détruit ?» Il continue au verset 7, « Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies, montez sur la montagne, apportez du bois, ici c'est l'image justement de l'argent, des biens, des ressources, et bâtissez le temple, j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Verset 9, 10, vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu, vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi déclare l'Éternel, le maître de l'univers, à cause de mon temple qui est détruit, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison, voilà pourquoi le ciel a retenu sa rosée. Et la terre s'est produite. Mmh. Ici, on voit ce qui est fort, c'est qu'on voit que Dieu s'attend à ce que ce qu'il nous donne, on ne l'investisse pas que pour nous, mais aussi pour les priorités du royaume de Dieu. Et c'est là, en fait, beaucoup de gens, comme on dit, ils veulent, je veux prospérer, Seigneur, bénis-moi. Mais là, on voit que Dieu a fermé le ciel parce qu'il a vu des gens dans qui il ne pouvait pas avoir confiance.
Oui.
S'il leur donnait, tout était pour eux. Et là, il y a vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que ce que Dieu nous donne, c'est... que ce soit spirituellement ou matériellement ou monétairement, ce n'est pas que pour nous, c'est pour qu'on donne en fait. Ça, c'est vraiment important.
C'est parce que c'est un principe de base. C'est pareil pour les enfants. Dieu ne nous donne pas les enfants, il nous les prête pour qu'on les remette sur l'autel. Mm-hmm. La santé, notre temps, c'est pareil. Ce n'est pas pour nous, c'est pour qu'on le remette sur l'autel. L'argent, c'est pareil. Il nous le donne, mais il y a toujours un aller-retour entre Dieu et nous et on remet ce qu'on a sur l'autel.
Exactement, exactement. Donc, soyons prêts à tout donner s'il le faut pour le royaume de Dieu, mais il n'y a pas, il le faut, oui, mais vous comprenez ce que je veux dire, de tout vendre, voilà, de préférer de tout vendre, comme on l'a dit au début.
Soyez prêts.
Voilà, soyons prêts à le faire, c'est ce que j'étais donc en train de dire avant que vous ricaniez, messieurs, vous voulez commenter?
On n'a rien dit, on n'a rien dit.
Allez, on va aller à la rubrique flashback, vous avez compris l'essentiel. Anne, tu vas nous parler de Pierre Valdo qui, justement, oui. Lui, a appliqué à la lettre le verset du jour d'aujourd'hui.
Eh ouais, ben, je le disais en préambule, avant Luther, quand je vous ai parlé de Luther l'année dernière, au moment des 500 ans de la Réforme, je vous ai dit que ce n'était pas le premier à avoir soulevé des problèmes, en tout cas des anomalies dans la façon de pratiquer sa foi. Il y avait eu des gens comme Jan Hus ou d'autres qui avaient commencé à protester en disant « mais l'Église fait n'importe quoi ». Et ils avaient été systématiquement éliminés, fait taire. Bon. Et Luther, c'est le premier, en fait, qui a osé lever sa voix et qui a été assez solide, par la grâce de Dieu, pour qu'on ne puisse pas le faire taire. Et ça a donné toute la vague de réformes qu'il y a eu au XVIe siècle et toute la descendance protestante dont nous aussi, on est issus. Et je vais vous parler aujourd'hui d'un de ces mouvements, en tout cas une de ces personnes qui a levé, qui a sonné la sonnette d'alarme bien avant l'époque de la Réforme. Et entre autres, Pierre Valdo, alors il a d'autres noms, il a pu aussi être appelé Valdès ou Vaudès, mais c'est le même mot. On va l'appeler Valdo pour plus de simplicité aujourd'hui. Et ce Pierre Valdo, c'est un Français, un riche de Lyon, à la fin du XIIe siècle, donc dans les années 1170 par là. Et il était très riche et il avait tout un patrimoine immobilier. Il avait des champs de blé, il avait les moulins pour moudre le blé que ses champs faisaient pousser, qu'il poussait dans ses champs. En tout cas, c'était un homme qui était un homme d'affaires. C'est un homme extrêmement riche et puissant, à tel point qu'il siégeait aussi au conseil de gestion de la ville de Lyon. Les villes étaient gérées par des conseils et il siégeait comme grand, grand ponte dans ce conseil-là. Et au cours d'un banquet, un de ses amis qui était à ses côtés meurt subitement, tombe mort à ses côtés. Et ça l'a complètement bouleversé.
J'imagine.
Et au moment où cet ami était en train de mourir, il y avait un troubadour qui animait la soirée. À l'époque, c'était pas des CD, hein, c'était des troubadours. Et il y avait un troubadour qui était en train de chanter la complainte de Saint-Alexis. Et dans la complainte de Saint-Alexis, dans les paroles, il y avait une interrogation sur l'état de mon âme. Est-ce que je suis sauvée? Où va mon âme après la mort? Et donc le troubadour chantait que Saint Alexis, son âme reposait au paradis. Et Pierre Valdo a été vraiment bouleversé. Il s'est dit, ben moi aussi, j'aimerais sûr d'être sauvé. Mm-hmm. C'est comme le dit la chanson, mais moi, j'en suis où? Et il a commencé à vraiment faire des recherches devant Dieu. Ben, où je vais? Est-ce que mon âme est sauvée? Alors, il est allé voir un théologien. Je vous rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas de Bible sur les... Enfin, il y en avait, mais les gens n'avaient pas de Bible imprimée. La Bible imprimée, c'était 400 ans après. Donc, il est allé voir un théologien, il lui a posé la question. Le théologien commençait par lui dire, ben, tu pourrais tout donner tes biens à l'Église. Ensuite, il lui dit, ben, tu pourrais te faire moine. Puis bon, Pierre Valdo n'était pas du tout convaincu. Puis le théologien dit, il y a bien encore une autre voie. Et c'est dans Matthieu 19, et il a lu le verset qu'on a lu juste avant. Hein. Donc, où c'est ce jeune homme riche qui s'approche de Jésus, et Jésus lui répond, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Et ça le touche puissamment. Cette parole-là le touche, et il se dit, ben, tout le reste, ce n'était que parole d'homme, mais ça, c'est une parole de Dieu. Mm-hmm. Et comme il ne connaît pas bien le latin, il demande à des érudits, on suppose des érudits de la cathédrale de Lyon, du chapitre de la cathédrale de Lyon, de traduire en langue courante des passages de la Bible. Donc il a demandé à ces gens de traduire en franco-provençal, ce qui était sa langue de l'époque, les psaumes et quelques livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, parce qu'il voulait vraiment creuser. Puis à l'époque, c'était tout un investissement de faire ça, parce que ça coûtait cher de faire traduire. Donc il fait cet investissement-là. On va voir un visuel. On va voir d'abord Pierre Valdo. Je crois que j'ai une... Voilà. Donc, il est représenté comme ça, Pierre Valdo. Donc, il est né en 1140 et mort en 1217. On va voir ensuite un exemple de Bible en franco-provençal. Voilà. Celle-là, elle est un petit peu plus vieille que... Elle est un peu plus récente puisqu'elle date des années 1300 ou début 1400, celle-ci. Mais c'était ça, une Bible en franco-provençal. Donc, ça ressemblait à ça. Mm-hmm. Et Pierre Valdo a fait traduire donc, à peu près sous cette forme-là.
C'est ça, parce que les gens n'avaient pas de Bible comme ça chez eux, comme tu disais. C'était réservé à l'église.
Dans des monastères, certains érudits qui avaient accès aux textes qui étaient en latin. Donc, ils avaient accès à la Vulgate et aussi à la vieille latine, on appelait, qui étaient des versions en latin qui avaient été traduites... pour celle en latin par Saint Jérôme, la Vulgate, on appelle la Vulgate de Saint Jérôme, qui datait des années 400. Donc, c'était tout ce qu'on avait. Alors, il commence à lire, il commence à s'instruire dans la parole de Dieu, il est touché et il va prêcher sur les places de marché, devant les cathédrales, partout où les gens étaient prêts à l'écouter. Et il convainc les gens de revenir aux Écritures, de revenir à la parole de Dieu et à ne pas croire tout ce que dit le clergé. Et il était tellement touché par ce verset qu'on a cité tout à l'heure qu'il est convaincu qu'il doit laisser sa fortune. Et comme il a une femme et des filles, il coupe sa fortune en quatre. Et il donne une part à sa femme, ce qui était la loi. Mm-hmm. Tout l'argent n'était pas... Il ne pouvait pas en disposer. Donc il donne un quart à sa femme. Il donne un quart à ses deux filles. Et une part aussi pour compenser ceux qui l'auraient lésé pendant ces temps d'homme d'affaires. Mm-hmm. Et le dernier quart, il le donne aux pauvres. Il ne garde rien pour lui. Et il part prêcher sur les routes. Et il se fait plein d'adeptes, des gens qui sont convaincus qu'effectivement, le clergé de l'époque fait n'importe quoi et qu'il faut revenir à la parole de Dieu. Il y a vraiment c'est le premier vrai retour à la tradition évangélique comme l'Église des premiers temps. Et là, l'archevêque de Lyon, qui a entendu parler de ce bonhomme qui va sur les places de marché prêcher, lui interdit de prêcher et le menace d'arrestation. Et Pierre Valdo, au lieu de se cacher, il part à Rome pour rencontrer le pape. Et au moment où il arrive à Rome, c'était ce qu'on appelle le concile de Latran. Donc il y avait les archevêques, les évêques qui étaient en concile pour j'imagine, prendre des décisions sur la gestion de l'Église. Et il rencontre le pape l'écoute et se dit que ce gars, il a quand même des choses intéressantes à dire. Mmh. Et il lui dit, je veux bien que tu prêches, que vous prêchiez, mais à condition que votre archevêque local soit d'accord. Et on sait que l'archevêque de Lyon était très, très opposé à ce que faisait Valdo. Mmh. Et Valdo lui répond, eh bien, écoutez, votre excellence, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Hein, donc c'est acte 29. Alors il continue à prêcher en désobéissance à son archevêque local. Et ce qu'on a appelé les Vaudois, c'est-à-dire Vaudois, ça vient du mot Valdo. On les a, ceux qui suivaient Pierre Valdo, on les a appelés les Vaudois.
On aurait pu les appeler les Valdois.
On aurait pu les appeler les Valdois. En fait, bah, c'est la même racine, étymologiquement, c'est la même racine que canton de Vaud, hein, mm-hmm. de Val. Mais les Vaudois, en tant que groupe religieux, ça venait de Pierre Valdo. Donc, ils sont déclarés définitivement hérétiques par le 4e concile de Latran et ils sont expulsés. Donc, et même, ils avaient été déclarés hérétiques déjà en 1184 par le clergé à Lyon. Alors, je vais vous faire un petit résumé de ce qu'il enseignait, Valdo. Oui. Vous allez vous reconnaître, en fait, dans ce qu'il enseigne, parce que même si ça date de la fin du XIIe siècle, ben, on se reconnaît vraiment dans ce qu'il enseignait. C'est Maurice Peset, en 1976, qui a fait un résumé de la morale vaudoise, selon Valdo. Il dit « L'écriture est la seule règle de la foi et des cœurs. » On est d'accord avec ça. « Tout homme, et lui, il rajoute toute femme, initiée à la connaissance de la parole divine, peuvent prêcher. C'est une chose excellente que le culte soit fait en langue populaire et que chacun ait sa Bible. La foi est un don de Dieu et elle comprend l'amour du Seigneur et l'obéissance à ses commandements. » Jusque-là, on est d'accord. Mm-hmm. « Le sacrifice de la messe du culte romain ne vaut rien. » les indulgences, vous savez que je vous en ai déjà parlé, des indulgences, on achetait son salut, on donnait des sous pour acheter son salut. Les indulgences ne valent rien et le purgatoire est une fable.
Étonnant que l'Église catholique ne l'aimait pas.
Tout ce qu'on fait pour le salut des morts est inutile. Jésus est le seul intercesseur, nous devons imiter les saints mais non les invoquer. Et leur culte est une idolâtrie. Donc on voit vraiment que c'est un vrai précurseur de la réforme parce que toutes les idées qu'a développées Luther... À part que les femmes aient le droit de prêcher, parce que Luther était contre. Mais à part ce détail-là, tous ces points-là sont des points qui ont été le fondement de la réforme de 300 ans plus tard, 350 ans plus tard. Donc, il continue. Je ne vais pas vous donner tous les détails, mais en fait, on est d'accord avec ce qu'il enseignait, grosso modo. Là. Moi, je me reconnais dans ce qu'il disait. Mmh. Et le culte de Valdo était composé de lecture de la Bible, après suivi de commentaires, d'une prière et de la récitation du Notre Père prosterné à terre. Donc, ils se prosternaient, ils récitaient le Notre Père. Et il n'y avait pas d'hierarchie. Ils étaient, c'était des communautés indépendantes. Et il y avait comme des missionnaires qui allaient de communauté en communauté. Ils les appelaient les barbes. Alors, ne riez pas, ce n'est pas parce qu'ils avaient une barbe. C'est parce qu'en vieux franco-provençal, barbe, ça voulait dire un oncle.
Oh,
ils appelaient ça les oncles. Et les oncles étaient des hommes de Dieu qui allaient de communauté en communauté pour enseigner.
Ce ne sont pas les précurseurs de Calvin.
Ce n'est pas les précurseurs de Calvin qui avaient une barbe. Leur méthode... Ouais, faut suivre.
Merci.
Je suis habituée de suivre.
Merci d'avoir sous-titré.
Ça, je fais le sous-titrage de Monsieur Berceau. Leur méthode d'évangélisation était assez sympa, je voulais vous en parler. Donc, ils avaient une méthode pour aller évangéliser. Ils allaient dans les châteaux forts.
Okay.
Je parle des barbes. Hein. Ils allaient dans les châteaux forts avec des marchandises. Et ils présentaient des soirées aux femmes riches pendant que les maris étaient aux croisades. Et ils disaient, mais j'ai encore un autre trésor beaucoup plus beau, mais il ne faut pas que vous me dénonciez au clergé. Alors évidemment, elles étaient très intéressées, les dames, un trésor encore plus beau que ces magnifiques soirées. Et ils sortaient une Bible de leur sac. Donc une Bible en franco-provençal, comme celle-là. Mmh. Et il leur lisait des passages, surtout des passages de Jésus qui parlent des pharisiens. Et ils font tout de suite, évidemment, un rapprochement avec le clergé de l'époque. Et ils sont touchés. Il y a beaucoup de gens touchés. Et surtout des gens qui vivaient dans les châteaux forts, des riches, des femmes riches. Et comme ça, ils arrivent à répandre leur doctrine. Alors, on revient au moment où ils sont expulsés de Lyon. Je vous ai dit que quand Pierre Valdo a commencé à prêcher, ils se sont fait traiter d'hérétiques et expulsés. Alors, on va voir la carte. Ils sont partis se réfugier en grande majorité en Italie. On va voir la carte. Donc, ils sont allés surtout majoritairement se réfugier au Piémont. Mm-hmm. Il y en a aussi qui sont... Donc, le Piémont, c'est au nord de l'Italie, dans les Alpes italiennes. Il y en a aussi qui sont partis en Calabre, donc aussi sur la péninsule italienne. Il y en a qui sont partis... donc là, on voit Pologne, Allemagne, nord de l'Europe, la région de Toulouse. Et un peu plus tard, donc tout à la fin du Moyen-Âge, Il y a un groupe qui est revenu du Piémont et qui s'est réinstallé dans le Luberon, donc à côté d'Avignon, Cavaillon, Carpentras, toutes ces villes-là, dans le sud de la France. Et c'était là qu'il y avait le plus grand nombre de familles.
Donc, ils étaient nombreux quand même.
Ils étaient très nombreux. Donc, une fois qu'ils ont été persécutés, donc aux alentours de l'an 1200, ils sont tous partis. Mm-hmm. Et je vous dis, vers 1490, donc presque 300 ans plus tard, ils sont revenus parce que le roi de France de l'époque, c'était Louis XII. Et Louis XII était un bon roi. Et il était assez favorable à ce qu'ils avaient dit. Alors, il y avait de ses conseillers qui avaient dit à Louis XII, il faut les tuer, il faut se débarrasser de ces vaudois, c'est de la vermine. Et il avait dit, mais attendez, moi je veux savoir ce qu'ils ont dans le ventre. Et en tant que roi, il était allé les rencontrer. Il avait passé toute une soirée à parler à des vaudois pour voir ce qu'ils enseignaient, qui c'était. Et il avait répondu après à ses conseillers qui lui demandaient de les exterminer. Il avait répondu, mais que voulez-vous que je fasse? Ce sont de meilleurs chrétiens que nous.
Oh.
Et donc Louis XII leur était favorable. Et il les avait laissés se réimplanter dans une vingtaine de villages du Luberon. Et donc pendant plusieurs décennies, ils ont vécu là en paix. Jusqu'à temps que le roi change et ça a commencé à sentir le gaz pour eux. Mmh. Et donc c'était, si vous vous souvenez bien, Luther avait lancé sa réforme au début des années 1530. Et ben dans ces mêmes années-là, dans la région de d'Apt, il y a un dominicain qui s'appelait Jean de Roma, qui a eu l'autorisation de sa hiérarchie de persécuter les Vaudois.
D'accord. Je sais que ça va être quelque chose de positif, non. L'autorisation.
Parce qu'après Louis XII, il y a eu son fils, il y a eu François Ier. François Ier était pas très futé. Et il se faisait beaucoup influencer par ses conseillers. Et il ne cherchait pas à savoir. Et quand quelqu'un est venu lui dire, les Vaudois, il faut les exterminer, il a dit, bon, qu'est-ce que font ces gens? Alors on lui a répondu toutes sortes d'horreurs, évidemment, des calomnies.
Ben oui.
Et François Ier a dit, bah, débarrassons-nous. Alors ces gens, il a signé sans même lire ce qu'il a signé. Et à cause de ça,
c'est terrible.
Il y a une grosse persécution qui s'est abattue sur les Vaudois. Et donc je vous ai parlé des débuts de la réforme, déjà. Quand j'avais fait la rubrique sur les femmes et le protestantisme, les femmes de la réforme, je vous avais parlé de Guillaume Farel. Et Guillaume Farel est venu spécialement de Genève rencontrer les Vaudois dans le Luberon. Il les a rencontrés à Champforan. Donc il y a eu un synode des pasteurs, comme on dirait une convention de pasteurs.
Oui.
Un synode à Champforan en 1532. Et à ce moment-là, les Vaudois ont vu, il y avait une concordance évidente entre leur doctrine et la doctrine des réformés protestants, et ils se sont ralliés au protestantisme. Et ils ont commencé à être noyés dans la population protestante. Et alors, pour marquer leur entrée dans le protestantisme, ils ont décidé de financer la traduction et l'impression d'une Bible, d'une première Bible en français traduite à partir des textes originaux.
Ok.
Voilà, donc ça a coûté 800 écus d'or, mais c'est eux qui ont fait
une fortune, j'imagine.
Les pasteurs vaudois, ouais, c'était une fortune. Ils ont financé cette traduction. On va voir une de ces Bibles. Donc ça, c'est la couverture de la Bible Olivetan. Mm-hmm. Et on va voir aussi l'intérieur de cette Bible. Donc elle a été imprimée en 1535 à Neuchâtel. Et donc, comme je vous dis, c'est la première Bible qui a été traduite à partir du texte original grec et hébreu. Donc
beaucoup.
Ouais, alors c'est le cousin, c'est pas eux qui l'ont traduit, mais ils ont payé Olivetan, qui était un cousin de Calvin, qui était un érudit, qui connaissait le grec et l'hébreu, pour traduire. Et il a mis, je crois, une quinzaine d'années pour traduire toute la Bible à partir du texte grec et du texte hébreu. Mmh. Alors, c'est ça, ils ont eu une grosse contribution,
vraiment,
puisque cette Bible Olivetan, elle a été vraiment précurseur de toutes nos autres Bibles protestantes, qui sont parues par la suite. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, donc le vent a tourné pour eux au moment de l'arrivée au pouvoir de François Ier. Et au Parlement d'Aix-en-Provence, on a considéré en 1540 que les Vaudois, qui étaient à l'époque 10 000 dans la région d'Avignon, par là-bas, dans tout le Luberon, on les a considérés comme une menace, et donc ils ont passé un arrêt qui s'appelait l'arrêt de Mérindol en juillet 1540, et ils ont été condamnés, et on les a condamnés à être brûlés vifs. Voilà. Donc, et leurs propriétés confisquées. Alors ceux qui siégeaient à ce procès, c'était des grands propriétaires terriens, dont le baron d'Oppède. Et ça les intéressait de récupérer toutes les terres que les Vaudois avaient achetées au comte de Provence quand ils étaient arrivés. Donc en fait, ils les ont rachetées à un dixième de leur prix. la plupart du temps même confisqués, et la persécution s'est abattue sur ces vaudois. Ils les ont quasiment tous massacrés.
C'est terrible.
Et donc, il y a une troupe de 6000 hommes qui s'est mise en marche sur Mérindol. Et tous les villages du Luberon, j'imagine que parmi nos auditeurs, il y en a qui connaissent cette région-là. Donc, les villages de Lamotte, Martignac, Villelor, Cabrières d'Avignon, Murse, Lacoste, Pépin d'Aigle, Lourmarin, Janson et La Roque. Donc, ces 6000 hommes qui se sont mis en marche vers ces villages-là pour exterminer les Vaudois.
Donc, 6000 hommes.
6000 hommes pour les réduire à néant. Mmh. Et alors, juste après, donc, les terres ont été confisquées. Il y a eu plus de 3000 personnes tuées dans les 22 villages qui ont été attaqués. Et les 600 survivants vaudois ont été envoyés aux galères. Donc, c'est pas drôle. Et les autres rescapés. Il y a quelques-uns qui ont réussi à fuir en Suisse. Okay. Et les autres, je vous dis, ont été envoyés aux galères. Donc, ce qui est fabuleux dans l'histoire, c'est toujours de voir à quel point, comment dire, des forces occultes se déchaînent.
Vraiment.
Pour éliminer ceux qui prône un retour à la parole de Dieu. Et puis juste après, donc, que ces gens ont été massacrés et leurs terres confisquées par les grands propriétaires terriens du coin, eh ben, les paysans des environs se sont rués pour piller les maisons et prendre tout ce qu'ils pouvaient. Mmh. Donc il y a eu un gros pillage de masse dans toutes les propriétés des Vaudois. Ils faisaient beaucoup de jaloux parce que c'était des gens qui avaient la foi, qui étaient assez prospères parce que Dieu les bénissait, mmh. et qui avaient une vie de famille équilibrée, qui étaient doux et gentils. Ils faisaient beaucoup de jaloux. Alors, quand les militaires les ont tués, ben, ils se sont tous précipités pour récupérer. Le, mmh. Voilà, c'est ça. Donc, la mentalité humaine, toujours à son meilleur. Mmh. Et beaucoup de gens de l'élite européenne de l'époque ont été très choqués par ce qui s'était passé. Parce qu'on n'oublie pas quand même qu'il y avait le protestantisme faisait beaucoup d'émules parmi même les princes. Hein, en Allemagne, les princes électeurs étaient touchés par la réforme. À Genève aussi, il y avait beaucoup de familles riches protestantes qui ont été mais vraiment choqué par ce qui s'est passé et que c'est été permis par le roi François Ier. Mmh. Et donc, après la mort de François Ier, son successeur Henri II a commandé un procès contre ceux qui avaient ordonné ce massacre. Et ils se sont rendus compte, en fait, entre autres, le baron d'Oppède, ils n'ont rien pu faire contre lui parce qu'il avait le papier signé de François Ier. Donc, comme le roi de l'époque avait ordonné,
ah, voilà, c'est ça.
Et ben, il n'y avait plus rien
il
à faire.
Il était couvert.
Et il a été complètement couvert. Donc, en fait, les Vaudois, la plus grosse partie de la population vaudoise a été complètement exterminée parce qu'elle se trouvait dans cette région du Luberon. Et les autres, qui avaient, en Calabre aussi, il y a eu un gros massacre 20 ans plus tard, je crois. Donc, ils ont été aussi éliminés. Et tous ceux qui restaient, qui avaient réussi à fuir, ont été fondus dans la masse de la population protestante. Donc, on a perdu leurs traces, ils ont été éliminés. Et c'est pour ça, je vous disais que ça a été des précurseurs de la réforme, mais on les a fait taire.
Vraiment.
Voilà. Donc, j'ai trouvé que leur histoire était bien. Était inspirante aussi parce que ce Pierre Valdo a fait quand même un travail phénoménal en étant touché par la parole de Dieu. Et puis, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. L'Église était ultra puissante.
Oui.
Et s'attaquer à une telle montagne, bah, c'était au péril de sa vie.
Vraiment.
Alors voilà l'histoire de Pierre Valdo.
Soyez courageux comme Pierre Valdo.
Oui, vraiment. On leur doit beaucoup, en tout cas, apparemment, parce que quand même, nos Bibles sont issues même de leur sacrifice monétaire d'abord et du sacrifice Exactement. De leur vie, finalement.
Qu'est-ce qui nous reste d'eux ? Ben, en tout cas, c'est tout cet héritage biblique.
Vraiment.
Parce que même Louis II, après, a repris les mêmes bases que la Bible Olivetan pour traduire sa Bible que beaucoup utilisent tous les jours. Donc on leur doit, ils nous ont laissé un bel héritage quand même.
On sera au ciel, on croisera Pierre Valdo, on saura pourquoi le saluer.
Oui, merci Anne de nous faire connaître ces histoires qui ne sont pas forcément vraiment médiatisées, connues. Mm-hmm. Merci parce qu'il y a des héros comme ça, des héros de la foi qui sont vraiment ignorés et puis c'est important de pouvoir leur rendre un certain honneur pour ce qu'ils ont fait. Et je vous rappelle à vous qui nous écoutez le thème principal de cette émission qui était « Quelle est la place du royaume de Dieu dans tes finances ?» Je pense que dans cette première partie d'émission, vous avez reçu des réponses à vos questions et vous avez peut-être même pris conscience pour certains d'entre vous que vous n'étiez pas les propriétaires de vos biens, de vos finances, de ce que vous possédez. Vous êtes des gestionnaires. Donc, nous prions que vous puissiez gérer les finances du royaume comme Dieu le veut, de la bonne façon, avec sagesse et intelligence, pour que le royaume de Dieu aille de l'avant, avant toute chose. Et nous allons nous nous retrouver demain. Notre thème sera « Ne te laisse pas séduire par les attraits de ce monde ». Et nous aurons la rubrique « Pasteur, j'ai une question » et « Culture et médias ». Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à vous pour cette émission. On se retrouve demain. Bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.